Hey, avant de démarrer ce nouvel épisode, il faut que je vous présente ma nouvelle application Sport Science Test. Saviez-vous que pour mesurer la puissance, les équations que nous utilisons obtiennent 2% d'écart de précision avec des plateformes de force ? Saviez-vous que l'algorithme de Sport Science Test permettait simplement en filmant le mouvement de savoir quels muscles étirer ou renforcer pour l'optimiser ? Que vous pouviez tester l'endurance de dizaines de joueurs à la fois sans jamais vous tromper ? Et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que sait faire Sport Science Test pour seulement 99€ par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester, car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode d'ABD Podcast. Je reçois aujourd'hui Mathieu Delalandre pour la seconde fois. Mathieu, merci de revenir dans le podcast.
Bonjour Aurélien, et ben merci de me re-recevoir.
Et ben c'est super, on va parler de vulgarisation. C'est un thème que j'affectionne particulièrement. Vous savez à quel point j'œuvre à ça sur tous les supports de communication possibles et imaginables, du livre à la vidéo en passant par les podcasts et autres webinaires. Donc je ne suis pas mécontent de parler avec quelqu'un d'assez conscient de la nécessité de la vulgarisation et qui en même temps est raisonné de manière assez profonde sur le sujet, puisque si vous avez vu le premier épisode, vous savez que Mathieu est sociologue du sport et que depuis son labo, il travaille sur tout un tas de thématiques qui sont finalement aux prises directes avec nos réalités de terrain et notamment sur la vulgarisation des savoirs.
C'est ça.
Alors, bon, vulgarisation, c'est pas si commun, si courant, si facile. Et on pourrait se demander pourquoi, parce que finalement... Quelle autre finalité que celle-ci lorsque l'on produit des savoirs de pointe dans le haut niveau ou en sciences du sport, évidemment, puisque c'est ce qui nous intéresse, mais pas que.
Alors, absolument. Évidemment, ça paraît évident de vulgariser, puisque, bon, bah, on va dire la conception ou un petit peu commune sur le sujet, c'est que, bah, voilà, il y a des savoirs scientifiques, il y a des gens qui ne sont pas chercheurs. Et puis, bon, bah, on va essayer de leur transmettre ça. Et donc, voilà. Et pendant des années, par ailleurs, dans nos formations sportives, on a fonctionné un petit peu sur ce principe qu'il fallait avoir une formation alors académique ou théorique qui serait une propédeutique à, après, des applications pratiques. Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas, mais c'est quand même quelque chose qu'on a...
On a un héritage cartésien très, très, très fort.
Dans les esprits. Alors, quand on s'interroge un petit peu sur le sujet, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir un peu en dehors du sport, parce que un défaut un petit peu qu'on peut avoir, c'est de penser que ce qui se passe en sport, c'est spécifique, que ça ne se passe que là. Que
la fameuse exception sportive.
Voilà, mais en fait, non, pas du tout. Alors, il y a un chercheur qui s'appelle Baudouin Jourdan, qui a travaillé, un grand chercheur qui a travaillé sur cette thématique de la vulgarisation dans les années 70. Et c'était assez intéressant son travail, puisque, en fait, il faisait le constat que si on considère que l'objectif premier de la vulgarisation, c'est de permettre au grand public de s'acculturer,
d'accéder aux
connaissances scientifiques et d'accéder au savoir. Et bien, bah, si on regardait les enquêtes sur le sujet, force était de reconnaître que c'était un échec massif. Et du coup, il s'est demandé, s'est posé cette question un petit peu, qui paraît un petit peu curieuse, bah, à quoi sert la vulgarisation si ce n'est pas pour ça, finalement. Il s'est rendu compte de deux choses. La première, c'est que finalement, le process de vulgarisation, plutôt que de réduire l'écart entre d'un côté la recherche et de l'autre les profanes, avait plutôt tendance à entretenir la croyance dans le fait que la recherche n'est pas accessible aux profanes. Ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que finalement, la vulgarisation, à qui sert-elle? Et bien, pour lui, elle servait beaucoup aux chercheurs eux-mêmes. C'est-à-dire que les terrains sur lesquels il a enquêté, ce qui ressortait de ces terrains, finalement, c'est que les chercheurs, en vulgarisant et en lisant de la vulgarisation, finalement, accédaient à une forme de réflexivité sur leur propre activité et que ça donnait du sens à ce qu'ils faisaient. Alors, ça paraît un petit peu provocateur comme ça. Loin de moi l'idée selon laquelle nos amis chercheurs ne vulgarisent à destination du secteur sportif que pour donner du sens à ce qu'ils font. Mais ça conduit quand même à s'interroger et à réfléchir un petit peu à ce qu'on fait. Et par exemple, moi ça pourrait m'amener à réfléchir aux raisons de ma venue ici finalement.
Et bon, en même temps, c'est sans doute une nécessité hein, quand on voit les thèmes de recherche. Encore, nous, on est sur des thèmes qui parfois sont assez larges. Ici, dans ce podcast, on va parler de mécanique du mouvement, de profil force-vitesse, de RFD, de VO2 max, des thématiques qui sont largement lues au sein de la recherche déjà, et puis aussi par la communauté des entraîneurs. Éduqués, qui lisent l'anglais, etc. Mais on se rend bien compte quand même qu'il y a des thèmes de recherche qui concernent 5 personnes dans le monde.
Alors là, c'est...
Donc c'est quand même parfois assez compliqué. C'est-à-dire que les mecs vont travailler pendant 3 ans, 4 ans, parfois plus, parfois des décennies entières sur des thèmes pourtant cruciaux qui vont impacter tous les autres secteurs de recherche, parfois même. C'est pas moins important, mais qui ne sont lus vraiment que par 4-5 pairs, qui sont suffisamment pointus dans leur domaine pour interpréter et savoir quoi en faire.
Alors ça renvoie encore à autre chose, qui est l'utilité finalement sociale de ce qui est produit par la recherche. Effectivement, on peut faire aussi preuve d'une forme d'égocentrisme dans la recherche par rapport à ça, ou enfin, dans le secteur sportif, ou les gens qui sont à la croisée des deux, en se disant, voilà, je produis de la recherche utile, etc. Mais en fait, effectivement, quand on chiffre et qu'on se dit, finalement, d'un point de vue social, à qui ça sert et à combien de personnes cela profite, souvent, c'est très très peu, et ça peut être bien inférieur à, on va dire, l'utilité sociale peut-être de recherche orientée sur le sport santé ou sur les mobilités urbaines pour rester dans le cadre des pratiques physiques. Et finalement, peut-être, c'est provocateur de le dire comme ça, certains vont dire, finalement, bien moins utile.
Oui, alors après, du coup, pour raccrocher un peu avec notre thème, et c'est dans ce sens-là que je le suggérais, c'est de dire, au final, c'est un peu humain, quoi. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à vulgariser ce qu'on fait pour essayer au moins de l'échanger avec nos pairs et au moins concerner, en plus de ces 5 personnes, quelques collègues, c'est vrai qu'on peut se démotiver et perdre du sens dans notre travail, j'imagine.
Alors, sur la vulgarisation aussi, alors ça c'est un autre point intéressant, c'est effectivement que les chercheurs, ils regardent ce qui se fait juste à côté de ce sur quoi ils travaillent, finalement. Et ils en discutent, ils se tiennent au courant, pas forcément sur leur spécialité, mais ils vont consulter de la vulgarisation sur ce qui se fait, aux frontières ou dans des domaines, on va dire, un petit peu périphériques à leur spécialité, effectivement. Et ça construit quelque part une forme de sociabilité, de fait. Donc voilà.
Ouais, ça reste un moteur malgré tout de vulgarisation. Mais alors du coup, est-ce que c'est pas ça qui anime un petit peu le premier point que tu relevais, qui était que finalement la vulgarisation avait plus pour finalité, selon le chercheur que tu citais tout à l'heure, d'être une fenêtre ouverte vers ce que les gens normaux ne pourront jamais comprendre. et de cloisonner encore plus finalement le terrain avec la recherche, quoi.
En tout cas, c'est un effet non voulu, finalement, un effet pervers, on pourrait dire, que la vulgarisation peut avoir. Et notamment, le fait que parfois la vulgarisation va user de termes scientifiques pour légitimer le fait qu'il s'agit bien de la vulgarisation de la vraie science.
Ouais.
Et peut-être à des moments où on pourrait finalement ne pas utiliser ces termes scientifiques. Voilà. Ça, c'est un exemple, par exemple.
Ouais, c'est vrai que ça, c'est toujours, hein, quand on écrit, moi, je me rappelle de mes premiers articles dans des magazines de sport, hein, j'ai écrit pour plein de magazines en français, en anglais, de l'esprit du judo au monde du muscle, hein, pour donner un axe assez, assez large, et c'est vrai que plutôt d'un cursus universitaire stable, donc plutôt sensible aux écrits de recherche, j'avais tendance à écrire de manière extrêmement formaté, extrêmement cadré. On est influencé par nos lectures quand on écrit, forcément. Et heureusement, je suis passé dans les mains de journalistes, de gens dont c'est le métier, justement, de simplifier le message. Et la vraie expertise, pour moi, elle est là. C'est-à-dire arriver à garder la vérité scientifique, ou en tout cas la précision scientifique, on va plutôt parler de ça, sans dire des contre-vérités.
Alors ça, c'est une des grosses difficultés, puisque quand on vulgarise dans le secteur sportif, on a une prétention au fait que ça va servir. Donc on doit avoir une forme de précision, forcément. Pour autant, l'idée selon laquelle la pratique serait déduite de la recherche, qui est un peu inhérente au fait de vulgariser, finalement, on a quand même ça qui est un petit peu sous-jacent. Cette idée-là, elle est très discutable, voire complètement battue en brèche. Puisque on sait que l'applicationnisme, ça ne fonctionne pas bien. Ça a même conduit à des, par le passé, si on remonte hein, aux années 60, à des contre-performances complètes. Donc voilà, il y a un positionnement qui n'est pas forcément évident à trouver, c'est-à-dire que la science est une ressource indiscutablement. Pour autant, l'idée selon laquelle la science serait prescriptive pour la pratique ne fonctionne pas. Sinon, le meilleur entraîneur sur un 100 mètres, ce serait un spécialiste de la physiologie ou de la biomécanique.
Bien sûr.
Et non.
Bien sûr. Cela dit, on a une petite tendance à ça sur les paramètres d'endurance en ce moment, hein, avec des sports scientists qui s'emparent de plus en plus de la partie aérobie, de la partie filière énergétique, et puis de l'autre côté, le prep physique qui serait de plus en plus spécialiste poids et haltères. Et une forme de distinction comme ça qui est peut-être une ère du temps et qui va peut-être tourner ou qui est peut-être quelque chose de durable, je ne sais pas.
Mais là, ce que tu décris, ça relève aussi d'un processus de division du travail,
ouais.
Et de rationalisation du travail dans le secteur de la haute performance qui est à l'œuvre depuis quelques dizaines d'années déjà. Donc c'est encore un petit peu différent parce que ça fait bien du scientifique une ressource pour. Et il y a un autre chose qui est sous-jacent, c'est que certainement de plus en plus, je sais pas, peut-être depuis les années 90 peut-être, alors je manque de données là-dessus, mais on a des profils hybrides, c'est-à-dire de gens qui ont passé un doctorat en physiologie, en biomécanique, mais qui sont aussi entraîneurs de formation.
Ouais, de plus en plus, voilà.
Et ça, c'est une évolution qui marque... ça marque quand même une différence, du coup.
Ouais, on en parlait avec un autre invité, Robin Ingère. On constatait l'évolution de l'ECSS. Je ne sais pas si tu as déjà soutenu à l'ECSS. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est la grande messe des sciences du sport qui grossit chaque année. Et maintenant, il y a un hall complet dédié uniquement au sport de terrain, quoi, aux sciences de terrain. Et de plus en plus d'entraîneurs et de préparateurs physiques viennent écouter à l'ECSS. Et ça montre que quand même, il y a une espèce de fusion des genres de plus en plus. On a de plus en plus de sport scientists qui pratiquent. D'ailleurs, le jeudi de l'ECSS, je crois que c'est le jeudi ou le mercredi, je ne me rappelle plus, ils courent tous ensemble. Ils font un grand jogging tous ensemble. Bon, y a ceux qui sont devant ont des sacrés temps à faire pâlir certains des collègues préparateurs physiques d'ailleurs. Donc ça montre bien que ça va vers ça. Et de l'autre côté, on a de plus en plus de préparateurs physiques qui, parfois, ont carrément fait des études poussées, effectivement, des masters, des doctorats, etc. Et puis, même sans avoir fait ça, de plus en plus écoutent, se forment, vont chercher l'information, lisent l'anglais, prennent le temps d'aller sur PubMed, faire de la veille d'information, etc. Donc, on a quand même effectivement ce petit rapprochement qui était complètement absent il y a encore une dizaine d'années.
Oui, mais ce rapprochement, effectivement, qui était en tout cas moins marqué, c'est sûr, il repose sur quelque chose qui me semble important, c'est que c'est un contact direct derrière entre les experts et les entraîneurs qui vont collaborer. Donc on n'est pas sur de la vulgarisation, c'est-à-dire sur de la science refroidie et vulgarisée via les ouvrages, etc. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Alors, on a fait des enquêtes là récemment avec des collègues, notamment des collègues de l'INSEP auprès d'entraîneurs olympiques, beaucoup, presque 200. Et ce qui ressort, c'est que l'accès à des connaissances nouvelles, etc., elle passe essentiellement par des contacts. Et le problème de la vulgarisation, c'est que, justement, c'est de la recherche refroidie. Dans le process de vulgarisation, on généralise de toute façon. On décontextualise toujours un petit peu les données. Il y a une forme de dépersonnalisation aussi. Même si on cite, on ne sait pas exactement par qui ça a été produit, comment, parce qu'on n'a pas la place, on ne peut pas tout préciser. Tout simplement. Et le problème, c'est que, alors ça va très bien pour du sport pour tous, ça convient très bien, mais sur la haute performance, quand on interroge les entraîneurs, ils ont besoin de réponses très précises, extrêmement contextualisées, et ils en ont besoin tout de suite aussi. Et du coup, ce que tu décris fonctionne parce que ça permet des contacts directs
rapide,
entre les personnes et rapides.
On arrive plus vite à détecter des besoins, à identifier.
Absolument. Et on est sur cette idée aussi que la recherche va être une ressource à, et non pas que la recherche va prescrire la pratique. Ce qui est aussi un positionnement qui est complètement différent par rapport à ce qu'on a pu avoir par le passé, si on remonte plusieurs dizaines d'années en arrière, savoir que dans les années 60, par exemple, on prescrivait, et le terme est employé à dessein, on prescrivait des entraînements de sportifs sur la base d'un électrocardiogramme. Voilà, on disait, cet électrocardiogramme est comme ça, ça veut dire que vous avez les parois du cœur trop épaisses, donc il ne va pas trop falloir de faire d'efforts en résistance. C'est embêtant pour un coureur, par exemple. Alors, ce qu'on appelait entraînement résistant, c'était les efforts type lactique. Voilà. Il va falloir éviter. Ah, oui, enfin, bon. Et du coup, ça a des effets. Ça a eu des effets. De l'aveu même en fait, des personnes qui ont travaillé à cette époque-là que j'avais interrogé, ça a eu des effets dramatiques en termes de performance. Cette conception extrêmement prescriptive des liens entre la recherche et le terrain.
Est-ce que tu observes, parce qu'on voit qu'il y a une disparité de formation initiale, j'en parle même pas, chez les entraîneurs, est-ce que tu perçois, parce que effectivement on a eu cet écho de la recherche un petit peu détachée du terrain, mais à l'inverse, on sait que le terrain peut être fermé à la recherche parfois, dans certains milieux, dans certains sports. Est-ce que sur ces données que tu brasses, là, sur des centaines d'entraîneurs, est-ce que tu perçois des profils qui sont plus réceptifs que d'autres à la recherche, ou peut-être à des sujets de recherche différents ?
Alors, il y a des tendances qui ressortent, et quelque part, elles paraissent un petit peu logiques. Globalement, les entraîneurs les plus diplômés, donc qui vont avoir bac plus 3, bac plus 5, ou qui vont être professeurs de sport, ont plus tendance... d'une part à solliciter les chercheurs pour des échanges, avoir des réponses à leurs questions. Ça, c'est une première chose. Ils ont, ce sont, euh, par, donc, ils sont plus acculturés finalement à la recherche. Ils vont mettre en place davantage de préparation mentale, par exemple, des procédures comme ça qui sont assez, assez récentes par rapport à des entraîneurs qui sont moins diplômés. Et ils ont une posture aussi qui est davantage celle de l'entraîneur-manager. Par rapport à ce qu'on pourrait qualifier de l'entraîneur technicien qui prend en charge les différentes dimensions de la préparation, etc. C'est-à-dire, eux-mêmes se définissent comme ça. Et eux-mêmes, dans les discours, se disent, ils sont moins nombreux, ces entraîneurs moins diplômés, à se présenter comme innovateurs. Alors même qu'ils peuvent très certainement innover en pratique.
On est dans le factuel, hein, que les choses soient claires.
Il n'y a aucun jugement de valeur, parce que par ailleurs, il faut souligner aussi que parmi ces disciplines qui ne sollicitent pas les chercheurs, enfin, dans certaines, ils ont l'or olympique.
Ah ouais.
Donc ça amène aussi à avoir une certaine modestie quand on est du côté de la recherche. Parce que ces entraîneurs qui sont peut-être moins diplômés et qui n'ont pas recours parfois à des chercheurs ou à la science du tout, ce sont quand même des gens qui,
par leur expertise
leurs athlètes,
de terrain,
par leur expertise, vont décrocher leur olympique. Donc ça amène aussi à une certaine modestie et à peut-être pas forcément penser que tout ce qui est nouveau est forcément mieux. Alors je suis un peu provocateur aussi. Là-dessus.
Mais bon, on a effectivement produit des champions olympiques bien avant de comprendre ce qui se passait au niveau de la mitochondrie. Donc clairement, il ne faut pas non plus, s'écarter de l'artisanat de terrain qu'est le sport de haut niveau. C'est autant ça que de la science. Et de la même manière, à un moment donné, j'imagine qu'il faut des repères, j'imagine qu'il faut standardiser des observables, et le diplôme en est un. Mais n'empêche que quelqu'un qui aurait simplement un brevet d'État ou un BP, mais qui continue à se former jour après jour, à lire sans cesse, va probablement rentrer dans cette stat aussi. C'est pas le fait d'être bac plus 5 qui fait de nous un érudit. Hein. C'est pas...
Absolument.
Ça se saurait.
Et alors, il y a un autre constat qui est intéressant, c'est que ces entraîneurs qui, a priori, ne définissent pas forcément comme innovateurs, en fait, quand on creuse les entretiens, on se rend compte qu'ils montent en compétences tout au long de leur carrière. Ils continuent à monter en compétences, même si, de prime abord, ils ne le verbalisent pas. Ils montent en compétences, ils deviennent meilleurs, en fait, au fil des années. Et ça, c'est aussi quelque chose qui ressort tout à fait clairement. Alors, tu parlais des diplômes. Et peut-être pour rebondir là-dessus, peut-être aussi qu'un des intérêts de la vulgarisation, c'est de créer une culture professionnelle. J'ai une collègue qui avait travaillé sur ce thème-là, sur la question des savoirs scientifiques mobilisés par les praticiens du sport. Et un des résultats qui ressortait, c'est Cécile Collinet qui avait travaillé là-dessus avec un autre chercheur, Philippe Terral, excusez-moi. Et donc, c'était que finalement, ces savoirs scientifiques, ils constituent une espèce de trame de fond. C'est une culture commune, finalement, autour de laquelle on peut échanger. Et quand on s'interroge un peu là-dessus, on peut se dire que, effectivement, ça donne un langage commun. C'est-à-dire que toi, préparateur physique ici, demain, tu vas aller parler avec un préparateur physique à l'autre bout de la France qui a fait une autre formation ailleurs. Quand tu vas parler de statodynamique,
soyons très honnêtes, ce qui était moins le cas quand j'ai commencé ma formation. On avait tout un tas de savoirs de terrain qu'on partageait, mais sur lesquels on pouvait rentrer en controverse, justement, parce qu'on ne les appelait pas pareil ou parce qu'on n'avait pas la même lecture de même ne serait-ce que sémantique ou culturelle leur utilité.
Ça, c'est une forme de témoignage aussi du fait qu'il y a eu une professionnalisation assez récente du métier de préparateur physique. Et que dans le processus de professionnalisation, et ça ne concerne pas du tout que le sport, hein, c'est des choses assez classiques en sociologie du travail. Il y a plusieurs processus, et l'un de ces processus, c'est la formalisation des connaissances pratiques. Donc il y a tout un tas de processus, hein, une forme de contrôle de l'accès au métier, une formalisation des connaissances pratiques, la constitution de communautés professionnelles, etc. etc. Et ce que tu décris là, ça montre bien ça, c'est-à-dire qu'on passe finalement d'une situation dans laquelle il n'y a pas vraiment, on va dire, une culture commune professionnel, mm-hmm. même s'il y a des références communes, etc., à quelque chose qui va être beaucoup plus formalisé, presque institutionnalisé, ouais, dans des manuels, des ouvrages, des éditions, des systèmes de formation, avec voilà.
Ouais, on normalise toute la profession.
C'est ça.
C'est clair. Écoute, c'était vraiment passionnant, hein. Hyper intéressant. J'espère que ça vous a intéressé autant que moi. Mathieu, merci. On te retrouvera peut-être dans un prochain épisode, j'espère en tout cas.
Et ben, merci de m'avoir reçu.
Tu viens quand tu veux. Vous savez que vous nous écoutez sur toutes les plateformes de streaming, depuis Google à Spotify, en passant par Deezer ou Apple. Vous savez que vous pouvez nous regarder sur YouTube et en version augmentée sur mon site web. Mais vous savez aussi qu'il y a tout un tas d'épisodes inédits sur le e-campus de transfert. Donc n'hésitez pas à faire un tour dessus aussi si vous en voulez plus. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.